Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comme je vous disais, avec le temps des Gésimes, nous quittons une atmosphère de joie, avec le temps de Noël et de la manifestation au monde du Christ et de la Trinité, pour aller vers une période plus intériorisée, et ce, avec le temps de Carême. Les couleurs liturgiques, vous avez vu, ont changé. Ce n'est plus l'or, le blanc et la lumière, symbole de la joie, mais c'est le violet, symbole de la sagesse et du repentir, qui va nous accompagner dans ce temps des Gésimes et du Carême. L'hymne, les chants, les textes que nous avons entendus dans les laudes et au début de la liturgie, et que nous allons entendre jusqu'à Pâques, sont devenus plus plaintifs, avec un profil de lamentation et de repentir. Ce temps est consacré à nous inviter à travailler plus intensément sur nous-mêmes et sur notre relation à Dieu. Les trois lectures que nous avons entendues aujourd'hui sont là pour nous donner, pour donner l'état de notre monde intérieur et nous inviter à y réfléchir. Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous montre toute la détresse de Dieu pour son peuple qui s'est éloigné, qui s'est détourné de lui. C'est l'étonnement de celui qui est l'amour. Dieu s'adresse à son peuple en ces termes. « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi et pour aller après des choses de néant et n'être devenus eux-mêmes que néant? Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays et vous avez fait de mon héritage une abomination. » Ce que le Seigneur nous dit par la bouche de son prophète Jérémie, c'est « Mais qu'est-ce qui vous arrive? Où allez-vous ainsi? Qu'est devenu l'axe de votre vie? Qu'est-ce que je vous ai fait ?» Dieu est amour. Pourquoi ne répondons-nous plus à son amour? Tout ce que nous avions reçu pour vivre en tant que bien-aimés ou bien-aimés de Dieu, nous l'avons balayé. Nous l'avons souillé. Il ne comprend pas comment, alors que nous pouvions expérimenter l'amour de Dieu, jouir de ses dons inépuisables, l'attention qu'il nous porte à chaque instant, la vie qu'il nous donne, nous saccageons tout, nous nous détournons de lui, nous donnons la préférence aux choses relatives et souvent futiles, à la vanité, à un enfermement sur nous qui nous mène à la mort. Ce discours du prophète Jérémie est valable aussi pour nous aujourd'hui. Qu'avons-nous fait et que faisons-nous de la création? Lorsque nous regardons la terre et l'exploitation outrancière et égoïste que nous en faisons pour assouvir nos petits plaisirs, que faisons-nous des créatures vivantes qui peuplent la terre? Comment traitons-nous la nature et les autres? Où est l'amour dans cette façon de vivre? Dans la deuxième lecture, saint Paul vient nous inviter à quitter le mode de fonctionnement du vieil homme, de cette humanité tellement tournée sur elle-même, qui se perd en voulant vivre sans Dieu, qui se laisse mener par l'orgueil, par la vanité, la rapacité, la colère, la méchanceté, le mensonge, énumère-t-il. Elle qui avait été créée à l'image de Dieu s'est perdue. Mais le Christ est venu pour restaurer l'image de Dieu en l'homme et en faire un homme nouveau, une humanité nouvelle, où il n'y a plus de différence de race, de classe sociale. Il n'y a que le Christ qui est tout en tous, nous dit-il. Dieu ne pourra bâtir son royaume que si l'humanité collabore à l'édification de son royaume d'amour. Et Paul nous énumère les signes d'une humanité nouvelle. C'est la tendre compassion, la bienveillance, l'humilité, la douceur, la patience, le pardon mutuel, la charité, que la paix du Christ règne en nos cœurs. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, dit-il. Vivez dans l'action de grâce. Quel programme! Alors il est temps de s'y mettre. Nous qui sommes si souvent enclins à jalouser, à médire, à comparer, à nous plaindre, à nous décourager si rapidement parce que cela ne va pas assez vite ou assez bien à notre goût. Nous qui recherchons la facilité, la reconnaissance des autres, à être vus, à être reconnus. Et enfin, à travers la parole des ouvriers de la première et la dernière heure, le Christ vient établir un constat lucide de notre mode de vie, de notre façon si souvent humaine d'aborder la justice, à travers un exemple que nous connaissons tous, la rémunération d'un travail. Il vient chambouler notre façon de penser, notre vision proportionnelle des choses, où nous méritons d'être rémunérés en fonction de la dureté et de la longueur de notre travail. Il vient nous présenter une autre façon d'aborder le pourquoi du travail. Est-ce que nous travaillons pour avoir plus, ou est-ce pour être plus homme, pour se réaliser et découvrir notre véritable identité, notre véritable vocation que nous travaillons? Pour être plus, nous allons devoir modifier notre posture intérieure, nous laisser travailler par la grâce. Si vous vous rappelez, les seuls à qui il promet un denier, ce sont les ouvriers de la première heure. Aux autres, à la troisième, à la sixième, à la neuvième et même à la onzième, le salaire sera ce qui sera juste. Et Dieu est juste, il respecte sa parole. Il paie un denier ceux à qui il avait promis un denier. Mais il introduit une autre dimension que la jalousie nous empêche souvent de voir. C'est la miséricorde. Le plus grand danger qui vient parasiter nos relations humaines, c'est la jalousie. Nous ne voyons plus à travers un œil amoureux, un œil miséricordieux, mais avec un œil rempli de haine, un mauvais œil, comme dit le Christ. Pour le Christ, l'amour est illimité. Il ne se mesure pas. Et saint Bernard disait, la mesure de l'amour de Dieu, c'est d'aimer sans mesure. L'amour du Christ n'a pas d'échelle barémique. L'amour de Dieu n'est pas une récompense liée à nos mérites, à notre travail. Dieu nous aime inconditionnellement, sans limite. Il ne faut pas avoir fait des choses grandioses ou particulières pour être aimé de Dieu. Il suffit de dire « Oui Seigneur, je suis là, que veux-tu faire de moi ?» Lorsqu'à la dernière scène, le Christ a distribué le pain à ses disciples, il l'a donné à tous, sans distinction. Malgré que l'un allait le trahir quelques heures plus tard, un autre allait le renier, un troisième refusait de croire en sa résurrection tant qu'il n'aurait pas mis sa main dans son côté, et les deux autres qui se disputaient pour savoir qui serait le plus proche de lui dans le royaume de Dieu. Et le Christ n'a exclu personne. La tentation est grande de se conduire en justicier dans notre monde, et même dans nos églises et nos paroisses. Nous sommes tous invités à chaque heure à travailler à la vigne du Seigneur, à l'édification du royaume de Dieu, de son royaume d'amour. Suivre le Christ en église, c'est arrêter de voir les autres comme des concurrents, comme des adversaires, mais comme des personnes aimantes et aimées. Dieu nous aime tel que nous sommes, avec toutes nos qualités et nos défauts. Le salaire qui nous est promis, ce fameux denier, c'est la vie en Christ, c'est la vie éternelle, et tout qui accepte de travailler avec amour reçoit ce salaire. Saint Jean Chrysostome, dans l'homélie de la nuit de Pâques, reprend aussi l'image de ceux qui ont jeûné dès la première heure, puis la troisième, la sixième, la neuvième. Et il dit, aussi entrer tous dans la joie de notre Seigneur. Premier et dernier, recevez le salaire. La table est prête, mangez-en tous. Jouissez tous du banquet de la foi, que nul ne déplore sa pauvreté, car le royaume est apparu pour tous. Il y a une phrase qui me frappe toujours dans cet évangile, c'est « Pourquoi vous tenez-vous là tout le jour à ne rien faire ?» Et la réponse est édifiante, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Et le Christ, lui, les engage. Il ne les traite pas de fainéants, ne les juge pas, mais les prend dans sa vigne tels qu'ils sont. C'est ce qu'il fit aussi avec le bon larron sur la croix. Je me dis toujours que si nous et nos dirigeants pouvions avoir en tête cette réponse du Christ, le monde se porterait bien mieux. Ce temps de Jésus est le temps de la prise de conscience de notre éloignement de la vie en Christ. Et le carême sera lui le temps de l'expérience vivifiante de la fin, F-A-I-M, de la fin de Dieu. À lui soit honneur, gloire et louange au siècle des siècles. Amen.